du livre des Proverbes. Le Seigneur m'a créé, prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité, je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre. Quand il a fermé les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés, comme le maître d'œuvre. Je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps sa présence, m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Voilà, mes amis, mes frères, mes sœurs, la sagesse de Dieu trouve ses délices parmi les enfants des hommes. Alors après être rentré dans ce temps de carême la semaine passée par la porte qu'est le signe de la croix, je voudrais ce soir vous parler de la joie. Vous parler de joie, de nativité, de création, bref, nous inviter à naître à la miséricorde. Peut-être car y regarder de près, n'y a-t-il pas grande différence entre une crèche et une croix? Les deux sont des navires qui emmènent le Fils de l'homme chez les hommes pour ne plus les quitter, en partageant tout de leur existence. Puisque ce que Dieu dit à l'homme, c'est « pas sans toi, pas sans toi ». Et ce sera le titre de ma méditation de ce soir. Alors commençons par le commencement et commençons par la joie. Souvenez-vous, dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. La création est bonne. Elle est faite par le Verbe de Dieu qui s'élance. Il dit et il fait. Accompagné du souffle créateur qui déjà danse sur les eaux. Et lorsqu'il crée Adam, le glébeux, homme et femme, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bon. En écho au premier chapitre de la Genèse, le livre des Proverbes, dont je viens de vous faire lecture du chapitre 8, raconte à sa façon la création du monde en faisant l'éloge de la sagesse. Et la sagesse créatrice, finalement, est comme une enfant qui joue et qui danse en présence du Seigneur. Elle danse à la surface de la terre et elle trouve ses délices parmi les enfants des hommes. Imaginez vos enfants, vos petits-enfants à la messe qui jouent, qui bougent, qui chantent, qui remuent dans tous les sens. Ceux-là même dont le pape nous invite à garder près de nous. Eh bien, peut-être que la sagesse qui danse à l'origine du monde, peut-être qu'elle est comme cet enfant, peut-être qu'au commencement est la joie de Dieu, joie de créer, joie de jouer en compagnie de sa créature, parce que l'homme pour Dieu est une merveille, il est la joie de ses yeux, au point que Jean l'évangéliste suggérera que nous sommes aux yeux de Dieu ce qu'il y a de plus grand. Ceci est au chapitre 10 de l'évangile de Jean, verset 29 ou 59, j'ai un doute. Vous vérifierez. En tout cas, la Bible de Jérusalem traduit « Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. » Et le Père Yves Simoins de cette maison, de cette sainte maison, traduit avec beaucoup de finesse « Mon Père, ce qu'il m'a donné est plus grand que tout. » Autrement dit, nous sommes le cadeau que le Père fait au Fils, si nous suivons cette traduction. Et voilà que nous sommes grands aux yeux de Dieu. « Mon Père, ce qu'il m'a donné est plus grand que tout. » Eh bien, ce commencement n'en finit pas de commencer. Chaque jour, quand le soleil se lève, quand nous sortons de notre sommeil, la création commence et Dieu crée comme un enfant qui joue, ose dire notamment Gilbert Chesterton dans un magnifique petit livre, Orthodoxie. Voilà ce que dit Chesterton. Il se pourrait que le soleil se lève régulièrement parce qu'il n'est jamais fatigué de se lever. De même que l'enfant, débordant de vitalité, qui ne cesse de dire à l'adulte qui joue avec lui « Encore, encore, fais-le encore une fois !» Eh bien, le soleil et toutes les créatures ne sont pas fatiguées de jouer avec le Créateur. Et Chesterton poursuit « L'adulte le refait une fois encore jusqu'à ce qu'il soit mort de fatigue. » Parce que les adultes ne sont pas assez forts pour exulter dans la monotonie. Je continue avec Chesterton. Mais peut-être que Dieu est assez fort pour exulter dans la monotonie. Il est possible que Dieu dise chaque matin « Fais-le une fois encore au soleil » et chaque soir « Fais-le une fois encore à la lune ». Il se peut que ce ne soit pas une nécessité automatique qui fasse que toutes les pâquerettes se ressemblent. Il se peut que Dieu fasse chaque pâquerette séparément et qu'il ne soit jamais fatigué de les faire. Il se peut qu'il ait l'éternel appétit de l'enfance, car nous avons péché et nous avons vieilli et notre Père est plus jeune que nous. Alors, en ce sens, naître à la miséricorde, c'est naître à la joie. Et il se peut aussi que chaque naissance soit en réalité sa première apparition, et qu'à chaque naissance d'un petit homme, Dieu soit si émerveillé de sa création qu'il a jugé tellement bonne, qu'il chante à son tour « Encore, encore !» pour que cette joie ne cesse pas, tant il aime l'homme comme au premier jour, tant il est vrai que chaque homme rejoue la naissance du Fils bien-aimé. Oui, à chaque naissance, tout est possible, tout est neuf. Ce que Hannah Arendt, en philosophe, dit à sa façon. Je vous la cite dans « La condition de l'homme moderne ». Le miracle qui sauve le monde, dit-elle, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau. C'est cette espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse, dans la petite phrase des évangiles annonçant la bonne nouvelle « Un enfant nous est né ». Ceux d'entre nous qui sommes parents, grands-parents, oncles ou tantes d'un nouveau-né, je suis tante d'un très beau nouveau-né, savent cette suspension émerveillée. Tout devient de nouveau possible devant un petit homme tout neuf. Parce que chacun de nous est une nouveauté du monde. Chacun de nous a une manière unique de vivre, d'aimer, comme le ton de la voix toujours singulier, ou bien la manière de rire, la manière de marcher, le style. Chacun de nous est la nouveauté du monde. Eh bien, je ne crois pas possible d'approcher le mystère de la miséricorde de Dieu sans commencer par cette joie, qui est l'autre nom de la miséricorde. Avant tout, définitivement, pour toujours, Dieu nous aime de cet amour ébloui, confiant. Lui qui est pur don, pure générosité, lui qui n'existe que de donner vie et joie à ce qui sort de lui, ne peut pas revenir sur ce qu'il a donné. À l'heure de la douleur, quand l'homme oublie son Créateur, Dieu donne plus encore. Et dans cet affaissement, dans ce vide qu'il devient, vidé de lui-même pour nous, nous pouvons contempler la transcendance de Dieu. Son infini mystère, cette profondeur abyssale qui continue d'aimer, d'espérer et de croire en l'homme, à l'heure même où l'homme trahit. Et pendant ce long silence, la joie inaugurale est comme mise en réserve, en attendant que chaque génération la redécouvre, en vive et la proclame, jusqu'à l'heure où tous, nous vivrons en Dieu de cette joie. On a coutume de penser la joie comme la conséquence du salut. J'aimerais la penser aussi, et peut-être d'abord, comme l'origine du salut. La joie qui est en Dieu, autre nom du don qui est le mouvement de l'esprit en Dieu, cette joie n'existe que de se répandre, de s'offrir, de se multiplier. Cette joie, la première manifestation de la miséricorde, prend sa source dans le salut offert par Dieu. Mais plus encore, elle est la source du salut offert par Dieu. Alors, comment nommer ce salut ? Ce sera mon second temps ce soir. Et je voudrais retenir deux expressions pour nommer ce salut. Tout d'abord, Dieu avec nous, Emmanuel, selon le nom de ce nouveau-né célébré à Noël. Et puis ensuite, passe en toi, selon l'heureuse expression de Michel de Certeau, à partir de la grande prière de Jésus au chapitre 17, « Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Et cette prière qui est reprise par le prêtre à l'Eucharistie, « Que jamais je ne sois séparé de toi. » Donc tout d'abord, Dieu avec nous. Le salut dans la Bible, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. La vie éternelle dans la Bible, ce n'est pas pour après la mort, c'est maintenant qu'elle s'inaugure. Le salut, c'est que Jésus, en prenant notre peau, en faisant de nos vies sa maison, va nous apprendre que tout dans la vie de l'homme peut être visité par Dieu. Il n'y a rien qui serait indigne de lui, pas même le péché, pas même la mort, même pas le tombeau, même pas le royaume des morts qu'il va visiter dans la nuit du samedi saint, comme nous le dit la grande tradition patristique et notamment orientale, pour en ouvrir les verrous et le vider de ses habitants, en tirant un par un, par les cheveux, chacun de ceux qui l'attendaient depuis les origines du monde. Depuis le jardin de la Genèse, le nom de Dieu, c'est Dieu avec nous. Souvenez-vous, au chapitre 3 de la Genèse, et le Seigneur se promenait dans le jardin à la brise du jour. Mais si Dieu est toujours avec nous, l'homme est parfois celui qui s'absente, celui qui parfois n'est pas avec Dieu. Celui qui parfois non plus n'est pas avec son frère, jusqu'à s'absenter de lui-même. Souvenez-vous, Adam se cache parce qu'il s'est découvert nu. Souvenez-vous, à la fin du chapitre 4 de la Genèse, Caïn se retire de la présence du Seigneur. La miséricorde de Dieu, le dépouillement de Dieu, c'est de ne jamais s'absenter de l'homme, alors même que l'homme s'absente de Dieu. Souvenez-vous, le peuple délivré de l'esclavage d'Égypte mettra 40 ans à traverser un désert tout petit qui se traverse ordinairement en 4 jours. Et pendant tout ce temps, si long, avec tant de détours, le Seigneur marchait au pas de l'homme. Nuée pendant le jour et feu durant la nuit. Notre Dieu, Dieu avec nous, a l'homme dans la peau. Avons-nous Dieu dans la peau, mes amis ? Avons-nous Dieu dans la peau ? Deuxième figure du salut, pas sans toi. Pas sans toi, dit Dieu à l'homme. Et l'homme qui a Dieu dans la peau, c'est celui qui, à son tour, dit à son frère « Pas sans toi ». Ce « pas sans toi » est la décision de Dieu d'être avec nous de la crèche à la croix. Ce « pas sans toi » que nous lançons au ciel est aussi notre supplication, pas seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour ce monde. Nous qui sommes là ce soir, nous ne sommes pas croyants pour nous-mêmes, mais nous sommes là en délégation en quelque sorte, en vicariance, au nom de ceux qui sont dehors, rue de Sèvres, dans le métro, au bon marché, dans leur maison parce qu'ils rentrent de travailler. De la même façon, tous nos rassemblements et nos rassemblements dominicaux, l'Eucharistie du dimanche, elle est aussi pour eux. Nous sommes là pour eux. C'est peut-être la seule raison qui peut nous faire tenir bon et continuer de persévérer dans la foi. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le monde que nous supplions notre Dieu. D'une certaine manière, la supplication de Jésus sont « pas sans eux, se diffracte, se démultiplie par nos voies. Le salut, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est de présenter tout ce monde à notre Dieu, y compris nos ennemis, car c'est ensemble que nous serons sauvés, pas sans eux, pas sans toi. Si le salut n'est pas pour tous, si ce n'est pas à chacun qu'est promis le pas sans toi de Dieu, à quoi bon ? Mon patron, Saint Dominique, notre patron, il y a quelques figures dominicaines ce soir, criait dans la nuit, « Que vont devenir les pécheurs ? Que vont devenir les pécheurs ?» Et Saint Paul lui-même avait découvert dans sa chair que ce salut était pour tous. Lui qui écrit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3, « Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. » Alors je voudrais conclure ce temps de ce soir, après une méditation sur la joie et une autre sur le salut, par les mots utilisés dans la Bible pour désigner la miséricorde. Il y a essentiellement deux champs lexicaux pour signifier la miséricorde. Le premier, c'est le champ de la fidélité, hesed en hébreu. Et le second, c'est le champ des entrailles, rahamim en hébreu. Tout d'abord, hesed. La miséricorde de Dieu, c'est sa fidélité. On le traduit en grec par « éleos » et on le retrouve par exemple dans le Magnificat. Il se souvient de son amour, entendre, il se souvient de sa fidélité, de sa miséricorde fidèle. Il se souvient de son amour et de la promesse faite à nos pères. Cette fidélité de Dieu est sans repentance. Dieu ne revient pas sur ce qu'il a promis. Cette fidélité est ferme. Elle est plus ferme que tous les rocs qui soient. Elle est stable. Non seulement elle tient bon, mais elle nous donne, à nous aussi, de tenir bon. Nous sommes forts de la force de Dieu quand nous ne comptons plus sur nos propres forces. Si Dieu est tout-puissant, sa toute-puissance est peut-être avant tout cet amour fidèle qui ne se fatigue pas. Mais c'est aussi une force plus forte que sa force, une force qui endure, qui pâtit, qui souffre et qui pourtant tient bon. On traduit souvent le mot hesed par amour, notamment dans les psaumes. On peut le traduire par tendresse. On retrouve en grec eleos dans Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Ce cri, Seigneur, prends pitié, Seigneur, sois notre miséricorde. C'est celui que l'on peut entendre, par exemple, quand l'aveugle Bartimée s'écrie à deux reprises en entendant Jésus passer, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Chapitre 10 de Marc. Et c'est ce cri qui a été repris par les moines d'Orient dans la prière de Jésus, qui est rythmé par le souffle et qui, sur chaque inspiration et expiration, redit « Seigneur, fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Eh bien, cette fidélité, cette miséricorde fidèle, elle est déjà enracinée dans la joie. Et l'indice qui me fait vous dire cela, c'est le conseil que donne Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 8, quand il s'écrit que celui qui exerce la miséricorde, éleos, la fidélité, que celui qui exerce la miséricorde le fasse en rayonnant de joie. L'autre champ lexical de la miséricorde, peut-être encore plus touchant, c'est le saisissement des entrailles de Dieu. Du mot hébreu « rahamim », les entrailles. La racine « rahem » évoque le sein maternel et les émotions ressenties par la femme. Dieu souffre, Dieu s'inquiète, Dieu pleure, Dieu tremble. On retrouve cette expression « être pris de pitié et avoir les entrailles complètement retournées », notamment chez Luc, à plusieurs reprises. Je vais vous donner simplement deux exemples. Le premier exemple est dans le Benedictus, le cantique de Zacharie, que l'on chante au Laude, qui reprend ces mots. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut. » Grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu. Eh bien, sœur Jeanne d'Arc, qui a traduit, en essayant d'être le plus près possible du texte, les évangiles, a cette très jolie traduction que je vous livre. « Car tu marcheras devant en face du Seigneur pour préparer ses chemins, donner la connaissance du salut à son peuple en rémission de leurs péchés, dans les entrailles de miséricorde de notre Dieu. » Voilà. Et là, nous avons à la fois la miséricorde fidélité, qu'elle traduit par miséricorde, et la miséricorde entrailles, dans les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Eh bien, je crois que nos vies sont cachées dans les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Et que naître, c'est naître à partir de ces entrailles-là. Le second exemple, c'est dans la parabole du bon samaritain, où il est dit que le bon samaritain, justement, fut pris de pitié, saisi aux entrailles, et qu'il a exercé la miséricorde. Là encore, nous avons les deux termes, saisi aux entrailles, exerçant une ferme miséricorde. Je voudrais terminer par un dernier mot qui dit, à mon avis, mieux encore, la miséricorde de Dieu. En hébreu, il s'agit du mot « nehama », dont la racine signifie la repentance de Dieu. C'est un concept compliqué, une idée compliquée, mais je crois qu'elle va au bout de la miséricorde. Et elle résonne d'autant plus dans la miséricorde entrailles. Quand ce terme est mis dans la bouche de Dieu, cela signifie que Dieu se repent. Et quand il qualifie l'homme, ce terme veut dire que l'homme est consolé. Autrement dit, la repentance de Dieu, c'est la consolation de l'homme. On retrouve par exemple cette expression juste après l'épisode du veau d'or au livre de l'Exode. Vous savez que les Hébreux, perdant patience, alors que Moïse est monté sur la montagne, prier son Dieu, il va redescendre avec les tables de la loi écrites par la main même de Dieu, et il retrouve les Hébreux qui ont façonné un veau en or, qu'ils ont fondu, il tourne autour du veau avec des incantations. Et donc, quand même, Moïse est un petit peu déçu et meurtri de ce qu'il découvre. Et pour autant, il intercède auprès de Dieu pour qu'il ait pitié de son peuple. C'est quand même extraordinaire. Et à ce moment-là, nous dit le texte, le Seigneur renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. On retrouve aussi cela dans le livre de Jonas. Jonas a péniblement, c'est le moins qu'on puisse dire, réussi à aller voir les Ninivites. Il fait le tour de Ninive en une journée, alors que le texte nous précise qu'il aurait bien fallu 3 jours pour faire le tour complet de la ville. Donc bon, il y va quand même assez rapidement. Et pour autant, les Ninivites se convertissent. Et encore une fois, le livre nous dit « Dieu se repent du mal qu'il avait projeté de faire subir à Ninive ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Que Dieu se repent. Eh bien, avec Jacques Ellul, qui fait un magnifique commentaire du livre de Jonas, je crois que cela signifie que Dieu souffre d'avoir peut-être imaginé qu'il allait condamner quelqu'un. Il souffre le mal qu'il avait peut-être résolu de leur faire subir. Ce sont ces entrailles de miséricorde, ces rahamim, qui sont retournées quand l'homme se repent. Jacques Ellul commente ce passage avec beaucoup de justesse. Dieu prend sur lui le mal qui était le salaire du péché de l'homme. Il fait retomber sur lui-même le jugement. Tel est le sens de la repentance de Dieu. En réalité, poursuit-il, la repentance de Dieu en présence de la repentance de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le nom ultime de la miséricorde de Dieu, celui qui porte sur lui le jugement pour ne pas l'infliger à d'autres, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus supplie son Père pour nous, afin que nous partagions sa victoire, c'est à l'heure de la trahison. Judas vient de le vendre et Pierre va le trahir. Et pourtant, c'est à ce moment-là, qui est peut-être aussi l'heure de la déception, que Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, s'offre pour que nous ne soyons pas séparés de lui. C'est pourquoi, dès la crèche, les mages viennent offrir à l'enfant la myrrhe, ce parfum de l'embaumement à l'heure du deuil, et l'encens, figure de la supplication, et l'or, parce que c'est ainsi que Dieu règne, dans l'abaissement, dans l'affaissement, dans le vide de ce qu'il est. La manière pour Dieu d'être avec nous, c'est d'arrêter sur lui tout ce qui nous abîme. Et de cela, il meurt. La joie de Dieu, cette joie qu'il offre, ne le dispense pas de ce retournement des entrailles qu'il supporte seul. Je crois que nous sommes invités à entrer dans ce mystère et avec lui à souffrir le mal que l'on aurait aimé faire subir à l'autre en l'arrêtant sur nous pour protéger la joie. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure, rappelle Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 14. Passe en toi, dit notre Dieu à l'homme. Passe en toi. Voilà la seconde œuvre de miséricorde que je vous invite à vivre avec nos proches et avec notre Dieu. Passe en toi. Et pour clore ce temps, je vous invite à chanter le refrain de Thésée que nous prendrons tous les mardis soirs. En tes mains, ô Père, je remets mon esprit. In manus tuas pater, commendo spiritum meum. In manus tuas pater, commendo spiritum.
Commando spiritum.